Je vais vous inviter à aller dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 20, le verset 7. Nous lisons ceci. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et nous restons debout. Amen. Ce verset nous parle du contraste entre celui qui reste debout, le croyant, et puis celui qui flanche, celui qui plie et celui qui tombe, parce qu'il s'appuie sur les moyens du monde. Quand on reconnaît le contexte, on sait que les chars et les chevaux, c'était le summum de la technologie, transport pour la guerre et tout ça. Aujourd'hui, ça serait d'autres images qui seraient prises. Mais voilà, certains s'appuient pour leur combat sur les moyens humains, et d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent le nom de l'Éternel pour rester debout. Ce matin, je voudrais parler de cette réalité qu'en Jésus, nous pouvons rester debout. Alors c'est très parlant quand on va dans le livre aux Corinthiens, on a eu l'occasion de s'y pencher longuement les derniers cultes, de voir ce que Paul va dire, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12, à ces Corinthiens qui pensaient justement qu'ils régnaient déjà, qui pensaient qu'ils avaient tous les dons, qui pensaient qu'ils étaient très tellement spirituels. Les conseils que Paul va donner, et après, juste après on va voir ce que Paul va dire aux Philippiens. Premièrement, 1 Corinthiens 10 verset 12. C'est presque un proverbe qu'on connaît. Hein. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et si on va maintenant dans Philippiens chapitre 4, verset 1er, et c'est le texte qu'on va méditer ensemble ce matin, sur lequel on va s'arrêter, vous allez voir la différence, comment Paul s'y prend avec les Corinthiens et avec les Philippiens. Parce que ce n'était pas tout à fait les mêmes caractères. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. Demeurez fermes, on pourrait traduire, restez debout dans le Seigneur. Et vous avez vu la façon dont Paul parle aux uns et aux autres ? Vous les Corinthiens qui êtes tellement fiers de vous, vous qui pensez que vous êtes déjà dans le ciel, prenez garde de tomber. Par contre, vous les Philippiens, dont je suis fier, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne, restez debout en Jésus. Mais c'est la même pensée. C'est exactement la même pensée et c'est la même pensée que le psaume. La pensée que nous devons, en Jésus, par la foi, rester debout, quel que soit ce qui se passe sur la terre. C'est une bonne nouvelle, parce que c'est le programme que Dieu a pour ses enfants. On a lu tout à l'heure dans le psaume, « Je sais que l'Éternel sauve son oint. » On pourrait se dire, oui, bon, c'est vrai, dans le contexte, c'est l'oint, c'est le roi, celui qui a reçu l'onction. Mais par la foi, savez-vous que nous avons reçu l'onction? Le mot chrétien, ça veut dire quelqu'un qui a reçu l'onction. Donc, Dieu veut sauver ses oints. Nous sommes les oints de l'Éternel. Nous sommes ceux qui ont reçu l'onction par la foi, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Et Dieu veut nous sauver, Dieu veut que nous soyons fort, que nous restions debout, parce que nous nous appuyons pas sur les moyens humains, mais parce que nous nous appuyons sur notre Dieu. Et si on lit tout le chapitre 4, on va prendre quelques portions, parce qu'on n'aura pas le temps ce matin, mais si on lit quelques versets, on va voir tous ces aspects, toute cette explication de comment est-ce qu'on peut rester debout par la foi. Déjà, ce que dit Paul, c'est très simple. Demeurez ainsi ferme ou restez debout dans le Seigneur. Ça résume tout. C'est dans le Seigneur que ça marche. C'est pas dans nous. Quand on regarde en nous, ça coince à un moment donné. Oh, on peut faire de belles choses, mais à un moment donné, forcément, on est limité. On est dépassé par les situations. Mais quand on regarde au Seigneur, il est toujours au-dessus de tout cela. Comment rester debout en s'appuyant sur la proximité de Dieu, sur la paix de Dieu, sur la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la provision de Dieu. Tout ça, c'est dans le chapitre 4. Et on va commencer avec le verset 4. J'ai pris que des versets top. Je ne sais pas comment le dire. Des versets qui m'ont touché. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Le Seigneur est proche. Alors oui, il y a une notion, pour nous surtout qui sommes dans la fin des temps, il y a une notion que le Seigneur est à la porte, il est proche, il va revenir bientôt. Mais dans ce contexte, c'est plutôt une proximité de distance, si vous voulez, géographique. Il est proche, il est là. Il est tout près, le Seigneur. Et parce qu'il est tout près, nous pouvons nous appuyer sur cette proximité. Est-ce que vous êtes content que quand vous vivez une situation difficile, le Seigneur, il est proche, il est là. Mais on sait qu'à chaque fois qu'il y a un aspect de Dieu qui est présenté de la part de l'apôtre Paul, il y a aussi une attitude de nous à développer. Et là, c'est très clair. On l'a lu, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Pour nous, en attendant cette proximité avec le Seigneur et son retour qui va arriver, nous devons être continuellement en train de nous réjouir. Remarquez qu'il n'est pas dit « Je vous conseille très fortement de vous réjouir ». D'accord ? C'est pas aussi poli que ça, là. C'est « Réjouissez-vous ». C'est un commandement. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, apprendre à nous réjouir. En plus, c'est répété, hein ? Je le répète, parce que peut-être on n'a pas bien compris. « Réjouissez-vous ». Toujours. Tellement et tellement de choses peuvent assombrir notre cœur, peuvent nous attrister. Il y a tellement de fois où on peut être déçu, où on peut être, en regardant ce qui se passe, inquiet même par rapport à tout cela. Quand on réalise que Paul, il a écrit cette lettre, vous savez comment est appelée l'épître aux Philippiens ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Sauf les pasteurs ou les anciens. Vous savez pas ? L'épître de la joie. L'épître de la joie. Parce que, réjouissez-vous, il n'a pas dit que là, il a dit à plusieurs reprises, il parle de la joie à plusieurs reprises. Et pourtant, quand Paul écrit ça, il est où ? En prison. Il est privé de liberté. Lui qui avait des ambitions pour faire des grands voyages missionnaires, parce qu'il en a fait déjà plusieurs, et il a vu de belles choses se passer, il s'est dit, mais je vais continuer. Et il a été emprisonné. Mais il savait pourquoi il était là. Et il va expliquer plusieurs reprises que même dans la prison, ça a été un moyen de bénédiction. Ça a permis que d'autres prédicateurs qui étaient plus réservés puissent aussi s'épanouir dans ce ministère. Il y a toutes sortes de choses qui se sont passées quand Paul est en prison. Ça lui a donné le temps d'écrire parce qu'il était tellement pris qu'il n'aurait pas forcément eu le temps d'écrire les lettres et de permettre que la Bible soit complétée de cette manière merveilleuse avec tout ce que les épîtres nous apportent. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est pour ça que c'est un homme qui sait de quoi il parle. Il sait ce que ça veut dire de se réjouir toujours, même dans la prison, même dans les conditions difficiles. Dieu nous donne la capacité de nous réjouir parce qu'il est proche. Son esprit, le fruit de l'esprit, c'est la joie. Et son esprit nous donne la joie. La joie, c'est un divin médicament pour notre âme. C'est un antidote au découragement, à la dépression, à la division, à la désunion. Juste avant de parler de « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », vous savez ce qu'il dit ? Il dit à deux personnes qui étaient un peu en froid ensemble, « Soyez d'une même pensée. » Et ensuite, « Réjouissez-vous toujours. » Oui, il y a peut-être des incompréhensions, il y a peut-être des choses qui se sont mal passées entre un tel et un tel. Oui, ça arrive, ça arrivera. Mais, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous. Choisissez de vous réjouir. Quelqu'un a donné cette image, la joie du Seigneur, c'est un thermostat, pas un thermomètre. Le thermomètre, il enregistre les conditions, le thermostat, il contrôle les conditions. Et le bonheur humain, par contre, c'est un thermomètre. Quand il fait beau, ça monte tout en haut. Ça va avec la température d'ailleurs, je pense, le bonheur, hein, un peu. Quand il fait froid, quand il y a la neige, quand il pleut, quand il vente, oh là là, le bonheur, ça descend. Mais ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que si on voit que le bonheur descend ou que le bonheur est en haut, c'est pas grave. Il faut que nous allions dans la présence de Dieu. Le Seigneur est proche. Sa présence va nous permettre que les conditions soient réunies pour que le bonheur remonte dans notre vie, que la joie du Seigneur soit notre force. Sa présence nous permet d'être continuellement dans la joie parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa joie est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est ce qu'il veut déverser dans chacune de nos vies. Quand je passe du temps devant Dieu, Dieu contrôle le niveau de joie dans mon cœur. C'est pour ça que quand on prie à la maison, c'est pas pour faire plaisir au pasteur. Parce que quand on réfléchit comme ça, c'est qu'on a loupé quelque chose. C'est pour que notre joie demeure, que la joie du Seigneur reste en nous et reste au bon niveau dans notre vie. Pourquoi on voit tellement et tellement de personnes qui sont dans l'instabilité ? parce qu'ils oublient que celui qui donne la stabilité à notre foi, c'est l'Éternel. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-ci s'appuient sur leur force. Ah tiens, ça s'est bien passé au travail, j'ai eu une promotion, j'ai eu une augmentation. Super. Ah non, j'ai été mal jugé, il y a eu ceci qui s'est passé. Oh là là, c'est la fin du monde. Peu importe les situations, si nous allons dans la présence de Dieu, la joie du Seigneur, elle est là. C'est pour ça que Paul dit « Réjouissez-vous toujours, tout le temps. » Et puis ensuite, il dit « Soyez doux devant tous les hommes. » Alors, c'est que votre douceur soit connue de tous les hommes. Moi, j'ai retraduit « Soyez doux devant tous les hommes. » C'est facile d'être doux face à ceux qui sont gentils. Hein. Mais quand on vous crie dessus, est-ce que vous êtes doux? Comment est-ce qu'on réagit quand on nous fait une queue de poisson sur la route? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et là, c'est pareil. Qui c'est qui nous remplit de douceur? C'est l'Éternel. Le mot douceur veut dire en fait modération, équilibre, indulgence. Avoir cette façon de réagir qui n'est jamais trop ou pas assez, mais qui est vraiment dans la mesure de sagesse que Dieu nous donne. Alors c'est tout un programme, hein, mais c'est ce que Dieu nous permet de vivre. Si nous voulons rester debout, nous devons nous rester proches du Seigneur parce que lui, il est proche de nous et nous devons laisser son Saint-Esprit agir de cette manière en nous. Durant une journée d'été, il y avait un jeune fermier qui essayait de faire sortir ses chevaux. Ils étaient dans une carrière, autour du champ, il y avait des carrières de gravier et donc ils étaient payés, les paysans, pour sortir des graviers. Il avait rempli son chariot, il avait deux chevaux qui étaient là. Et il essayait de les faire sortir, et ce qui se passait, c'est que ça marchait pas, il les fouettait, il leur hurlait dessus, il les maudissait. Et plus il faisait ça, plus les chevaux, ils faisaient n'importe quoi, ils étaient même plus dans le sens de la marche. Et puis, à côté de ça, il y avait un autre paysan avec son fils qui regardait. Pendant un moment, ils l'ont regardé faire, puis le monsieur plus expérimenté, il est allé dire au jeune, est-ce que tu veux que je le fasse? Je vais m'en occuper pour toi si tu veux. Et puis le papa, donc, il a commencé à s'approcher des chevaux. Il leur a chuchoté quelques mots à l'oreille. L'homme qui parlait, qui murmurait à l'oreille des chevaux, hein, c'était ça. Il commençait à leur caresser le museau tout doucement. Et puis il s'est mis entre les deux chevaux et il a commencé à les prendre tous les deux ensemble. Et puis une fois qu'il a gagné leur confiance, il a pris les rênes, il s'est mis devant. Et puis tout doucement, il leur a dit « Allez, on y va les gars ». Et puis il a fait avancer et en quelques minutes, le chariot était sorti. En quelques minutes. Ce qui est intéressant, c'est que cet homme, son fils qui était là, parce qu'il a vu la manière de procéder de son père, il est devenu lui un entraîneur de basketball très connu aux États-Unis parce qu'il a adopté cette manière-là. Il y avait la manière forte, celui qui tape, celui qui maudit, celui qui hurle sur les autres pour que les gens avancent. Et puis il y avait la manière de la douceur. Et il a dit cette conclusion... Il faut de la force à l'intérieur pour être doux à l'extérieur. Franchement, entre vous et moi, c'est très facile de s'emporter. C'est très facile de s'énerver. On n'a pas besoin de leçons. Demandez aux enfants de s'énerver, ils le font naturellement. Et des fois, ça nous emmène à nous irriter aussi. Mais quand on a appris que le Seigneur agit dans notre cœur, quand on le laisse faire, et quand on a cette maturité, il y a beaucoup de douceur en nous. Et c'est le conseil de l'apôtre Paul, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors il y a du boulot, hein, on est d'accord. Mais c'est le programme que le Seigneur nous donne, parce qu'il est proche. Croyez-vous que le Seigneur est proche? Amen. Il est là, il est auprès de nous, et il veut déverser en nous sa douceur, son humilité. Le Seigneur, il est doux et il est humble de cœur. Si on a un cœur à cœur avec Dieu, c'est pas possible qu'on sorte énervé. Franchement, c'est pas possible. Mais si on s'énerve, c'est que peut-être on a manqué le rendez-vous avec le Seigneur qui nous apaise. Et justement, la suite au verset 7, il est dit ceci. « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pour rester debout, il faut s'appuyer sur la proximité de Dieu, mais il faut s'appuyer aussi sur la paix de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas une paix qu'on essaye de comprendre avec notre intelligence parce que ça dépasse tout ça. Ça va au-delà des raisonnements humains. Mais la paix de Dieu, cette paix-là, est capable de nous garder. À Philippe, il y avait une garnison qui était là pour garder la ville. Et Paul emploie cette même image militaire de la paix qui va garder nos cœurs en Jésus. Il y a une véritable protection pour la personne qui s'appuie sur la paix de Dieu. Et comment est-ce que concrètement je m'appuie sur la paix de Dieu? C'est le verset 6 qui le dit. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et alors la paix de Dieu gardera vos cœurs. » Avez-vous bien entendu? Le Seigneur ne dit pas « Essayez de pas trop vous inquiéter, mais même si de temps en temps, bon, c'est pas trop grave. » Non, 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 ça c'est la façon dont nous on interprète. C'est la version contemporain 2022. Mais la version biblique, elle est simple. Ne vous inquiétez de rien du tout. Ce n'est pas marqué, mais je le rajoute. De rien du tout. Tolérance zéro. On a la tolérance zéro sur plein d'autres domaines. Mais là, c'est le vrai bon sujet. Ne nous inquiétons de rien. C'est quand même merveilleux de voir que le Seigneur Jésus lui-même, il a parlé de l'inquiétude de manière assez longue dans le sermon sur la montagne. Il en a parlé parce qu'il sait combien ça peut manger, empoisonner, ruiner même le cœur de quelqu'un qui passe son temps à s'inquiéter. Aujourd'hui, on dirait ne stressez pas, ne vous angoissez pas, ne soyez pas anxieux par rapport aux situations. Ne laissez pas en fait les situations inquiétantes vous contaminer. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on a tous des inquiétudes, on est d'accord ? On a tous à un moment donné une inquiétude, mais l'idée c'est qu'est-ce qu'on fait de notre inquiétude? Est-ce qu'on la laisse persister en nous ou est-ce qu'on dit non stop, je vais transformer mon inquiétude? Là c'est exactement ce qui est dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières. Ne vous inquiétez de rien, mais priez pour tout. Voilà le mode d'emploi, c'est très simple. Est-ce qu'il y a une préoccupation? Est-ce qu'il y a une inquiétude? Est-ce qu'il y a quelque chose, un souci de la terre qui me préoccupe là? Je vais en faire un sujet de prière. Des fois, on nous dit, à nous les pasteurs, on nous dit « Ah, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas quoi prier. » Franchement, il suffit de prendre toutes nos inquiétudes et d'en faire des prières. Je pense qu'on a toute la journée remplie de prières. Et les personnes qui s'inquiètent beaucoup devraient être les personnes qui sont le plus à genoux. Parce que c'est dans la prière que l'inquiétude s'en va. C'est la prière qui permet à nos inquiétudes, à nos angoisses, à tout cela de partir. Combien de fois j'ai rencontré des personnes, des chrétiens même, qui disaient « Ah, j'ai beaucoup d'angoisse !» Et ça peut arriver. Mais le secret, il est dans la présence de Dieu. Le secret, il est dans cette vie de prière authentique et véritable. Quand je suis à genoux, quand je crie au Seigneur parce que je suis tellement préoccupé par telle ou telle chose, je sais que le Seigneur va s'occuper de moi. C'est pour ça que je le prie. On a tendance à demander au Seigneur son secours pour les gros problèmes. Mais pour les petits, on gère. On est assez fort. Et c'est intéressant de dire, Seigneur, dans tout, en toutes choses, et j'aime comment c'est dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins. En plus, on voit qu'il y a des moyens différents, la prière, la supplication, les actions de grâce, la louange, il y a tout ça. Un missionnaire qui était donc se promenait dans la jungle, il est tombé en face d'un lion féroce qui était là prêt à bondir sur lui. Et dans ce moment terrible où il pensait qu'il allait perdre la vie, il a crié à Dieu, Seigneur au secours, je t'en supplie, fais quelque chose. Et alors qu'il a fait ça, pour une raison qu'il ne connaît pas, le lion s'est enfui. Bon, il s'est douté que c'était Dieu quand même, mais le lion, au lieu de lui bondir dessus, il est parti. Et puis, en rentrant chez lui, il louait le Seigneur, il était content. Et puis, le soir arrive, il dort. Il essaye en tout cas de dormir, mais il y avait un moustique qui bourdonnait dans sa chambre. Et à chaque fois qu'il se levait et qu'il faisait la lumière pour essayer d'attraper le moustique se cachait. Et à chaque fois, il se rendormait et le moustique revenait bourdonner dans ses oreilles. On connaît ça, hein. On a les moustiques aussi en France, pas besoin d'aller en mission. Et toute la nuit, il a passé la nuit horrible parce qu'il essayait de l'attraper et ça marchait pas. Et le matin, après quelques petites heures de répit quand même, il s'est levé. Et puis dans son cœur, c'est comme si le Seigneur lui parlait. Il lui a dit, tu as prié pour que je m'occupe du lion et je l'ai fait. Et pour le moustique, tu as voulu gérer tout seul. Et regarde où c'est que tu en es aujourd'hui. Et cet homme s'est mis à pleurer en fait. Parce qu'il s'est dit, face au danger, féroce du lion qui était là, affamé. Ben oui, il faut crier à Dieu, on ne peut rien faire. Le petit moustique, oh c'est bon, je vais le gérer, je m'en occupe, moi. Seigneur, il n'y a pas besoin, tu es tellement occupé à d'autres choses. On rigole, mais combien de fois on l'a fait ça? Et combien de fois on le fait? Combien de fois on veut gérer les petites choses parce qu'on pense que nous, on va maîtriser, on sait mieux que le Seigneur. On ne le dit pas comme ça parce qu'on est chrétien, donc on sait ce qu'il faut dire, mais on n'en pense pas moins. Mais le Seigneur nous dit, abandonnons nos inquiétudes. Et même les petites choses, ce qui nous semble anodin, déposons-le à ses pieds. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ne déposons pas seulement les gros problèmes, les grosses difficultés, mais dans tous les aspects de nos vies, le Seigneur veut intervenir. Et combien de fois on s'est trompé parce qu'on a voulu s'en sortir nous-mêmes. On a voulu y arriver tout seul. Mais on sait que l'être humain est limité. Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, nous avons besoin de nous appuyer sur la paix de Dieu, de nous appuyer sur sa présence aussi. Au verset 9, Paul se prend en exemple. « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Non seulement il y a la paix de Dieu, mais le Dieu de paix sera avec vous. Ça veut dire qu'il y a la présence de Dieu. Dieu, il n'est pas quelqu'un qui de loin envoie sa paix. Tiens, je te donne ça, débrouille-toi. Non, non, il envoie la paix, mais en plus, il rejoint. D'ailleurs, à quel prix est-ce que nous pouvons avoir la paix? Il y a un des versets de la parole de Dieu qui nous dit que nous avons la paix par le sang de la croix. C'est le seul moyen. Des fois, la première inquiétude que l'on doit avoir dans notre cœur, c'est l'inquiétude du péché, le souci de savoir si nous sommes purs. On l'a entendu tout à l'heure, c'est seulement par la sanctification que nous verrons le Seigneur. C'est le seul chemin, ce n'est pas possible autrement. Et le chemin de la sanctification, il passe par la croix. Le Seigneur ne tient pas compte de notre péché passé, le Seigneur ne tient pas compte de ce qu'on a pu faire comme échec, dans la mesure où on a déposé tout ça à la croix. Seigneur, pardon. Et la paix de Dieu vient sur nous. Et la paix de Dieu nous garde. Et dès qu'il y a une inquiétude, parce que j'ai pris cette saine habitude, j'ai pris ce bon départ, je continue dans cette démarche, le Seigneur me donne sa paix. Et le Dieu de paix est avec moi. Non seulement le Seigneur nous donne cette paix surnaturelle, mais il est aussi présent. Et Paul dit, mais regardez, comme il a été présent pour moi, Paul se prend en exemple, il ose se prendre en exemple, mais il a le droit de le faire, parce que c'est son travail aussi. En tant qu'apôtre, ce que vous avez appris, reçu, entendu, ce que vous avez vu, on aime bien donner des leçons, mais on n'aime pas dire « regarde ce que moi je fais ». On aime bien dire « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Mais vous savez que la plus grande leçon, c'est de faire. On peut dire à nos enfants « viens, c'est bien de venir à l'église ». Mais c'est si on n'y va pas nous-mêmes, je me souviens cet homme, une dame qui était presque en dépression, à pleurer pour ses enfants. « Seigneur, oh, je voudrais que mes enfants se convertissent. » Et une fois, j'ai discuté avec elle. Et donc, elle partage son fardeau. « Je voudrais que mes enfants se convertissent. » Je dis, « C'est super. Mais pourquoi est-ce que vous venez pas à la réunion de prière pour combattre et partager votre fardeau avec tous les frères et sœurs ?» Dans plusieurs années où j'étais dans une église, je ne l'ai vu jamais. Je vous dis jamais. Zéro fois. Et après, on pleure. « Oh, Seigneur, fais un miracle !» Oui, mais la paix de Dieu va venir dans le cœur, dans la mesure où nous, on fait notre travail aussi. Vous comprenez, c'est Seigneur, il agit, il nous est fait en fonction de notre foi. Mais notre foi, elle se voit comment? Dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, mais surtout dans ce que nous manifestons. Alors, par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis, dans des circonstances, que cet enfant soit touché quand même. Mais le rôle des parents est tellement important. Et je parle pour moi. Nous avons ce devoir de montrer à nos enfants les bonnes attitudes. Et le pasteur a le devoir, mais pas que le pasteur, de montrer ce qu'il faut faire de manière juste, dans les réactions, etc. Qu'est-ce que Paul leur a appris et qu'ils ont vu en lui? Et c'est très intéressant quand vous regardez toujours juste avant. Encore un verset top. Je vous ai dit, il n'y avait que des versets top. Au verset 8. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et c'est ça que je vous ai appris, c'est ça que vous avez vu, c'est ça que vous avez entendu de moi. Ils ont vu l'apôtre Paul quand il avait des pensées peut-être qui n'étaient pas droites, qui a dit « Non, il faut qu'on parle d'autre chose, c'est pas bon ça. » Ils ont vu cette attitude et ça les a interpellés et Paul leur rappelle, c'est comme ça qu'il faut faire. Nos pensées ne doivent pas régner en nous. Frères et sœurs, c'est un principe biblique tellement simple. Nos pensées ne doivent pas être les maîtresses dans notre cœur. Le seul qui doit avoir la maîtrise, c'est Dieu. Et c'est pour ça que ça demande un effort, parce que nous sommes charnels, nous sommes dans un corps de chair, il y a un combat entre la chair et l'esprit, mais par la puissance de Dieu et le Saint-Esprit qui habite en nous, nous avons la victoire, si nous prenons la peine de combattre. Et c'est là, encore une fois, notre devoir. Que tout ce qui est vrai, remarquez qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est donné pour nous à faire, il est dit tout. Soyez toujours, tout le temps joyeux. Devant tous les hommes, vous devez être doux. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Et on va voir que c'est toujours comme ça, en fait. Il n'y a pas, comment dire, des fois on est trop gentil avec nous-mêmes. On est trop gentil avec notre chair. Et la parole de Dieu, elle est là pour trancher. C'est pas pour blesser. Elle est là pour couper ce qui est mauvais, afin que ce qui est bon porte du fruit. Alors oui, sur le coup, quand on coupe, demandez au cep qu'on taille et ça lui fait mal. Mais après, le fruit qui va en sortir va être merveilleux, sucré, doux. Le Seigneur est présent avec nous. Alors, ne dispersons pas nos pensées, mais concentrons-les. Quand on est dans la présence de Dieu, nos pensées sont recentrées sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le royaume de Dieu. Quand le Seigneur va parler des inquiétudes, il va dire ce merveilleux verset, « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Des fois, on bataille sur des histoires. Alors, il faut être responsable, agir en responsabilité, oui, mais il ne faut pas se laisser dépasser, submerger. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Regardez encore un beau verset, verset 13. Je puis tout par celui, par Christ, qui me fortifie. Je puis tout. Alléluia, je puis tout. Alors je vais aller sur l'autoroute marcher, le Seigneur va me protéger. C'est ça? Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie, mais il va me conduire dans sa volonté. Pas ce que j'ai envie de faire. Parce que là on tombe dans l'histoire du diable qui dit à Jésus, vas-y saute, tu peux tout par celui qui te fortifie. Alors saute, le Seigneur va te garder. Oui, mais ça, c'est tenter Dieu. Non, je puis tout. Je peux faire tout ce que Dieu me demande de faire. Je peux accomplir toute la volonté de Dieu, toute la parole de Dieu qui me concerne. Je peux le faire par Christ seulement. C'est ça que ça veut dire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pour rester debout, il faut s'appuyer sur la puissance de Dieu et de Dieu seul. Il n'y a aucun péché, aucune tentation, aucune épreuve que le croyant ne puisse vaincre tout seul. Mais s'il s'appuie sur son Seigneur, il a la puissance de vaincre tout. C'est ça que ça veut dire. Comment s'appuyer sur la puissance? Regardez encore le verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. On aime bien, je puis tout par celui qui me fortifie, mais on n'aime pas ce qu'il y a avant. Ah, j'ai appris à être dans l'abondance. Oui, Seigneur, apprends-moi à être dans l'abondance. Oui, mais j'ai appris à être dans la disette. Hein. Et Paul, il sait ce que c'est. Des fois, il a été bien reçu comme un roi, et des fois, il est en prison. Et il l'a souffert. Des fois, il était applaudi dans des endroits où il prêchait, et puis des fois, on l'applaudissait avec des pierres, quand il jetait à la figure. Mais dans tous ces endroits-là, il a dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas les circonstances qui vont dominer dans ma vie, c'est la puissance de Dieu sur laquelle je m'appuie qui va me permettre de rester debout par sa grâce. Un chrétien a demandé à son ami, qui était aussi chrétien, comment est-ce qu'il allait. Alors, avec une triste mine, celui-là, il a répondu « Oh, ça va, c'est bien, dans les circonstances actuelles. » Et son ami s'est empressé de dire « Mais, oh, mon pauvre, c'est terrible !» Alors, l'autre, il n'a pas compris la réaction un peu forte. « Mais pourquoi c'est terrible ?» Et il lui a dit « Mais, Je suis désolé que tu sois dans les circonstances, alors que Dieu veut que nous vivions au-dessus des circonstances. Vous avez compris, c'était une petite leçon qu'il lui a donnée. Mais il lui a dit, c'est quand on est au-dessus des circonstances que Dieu peut satisfaire nos cœurs, que Dieu peut répondre à tous nos besoins. Si on reste au milieu de nos circonstances, qu'on reste pressé, oppressé par tout cela, on s'en sort pas. Et on déprime, même en étant chrétien. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui passent par des afflictions, des tristesses, qui portent toute leur vie. Il y a des personnes, c'est malheureux à dire, mais ils portent sur elles la tristesse, alors qu'ils sont chrétiens. C'est normal d'avoir une tristesse quand on perd une personne, quand il y a des événements forts qui se passent, c'est normal. Mais c'est pas normal que l'on reste toute notre vie, que rien n'évolue, parce qu'il est dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et Dieu nous donne la puissance pour affronter toutes les situations. Alors ne vivons pas dans les circonstances ou sous les circonstances, mais au-dessus des circonstances, par la grâce de Dieu. Et le dernier verset, les deux derniers versets, ça va être le verset 19 d'abord. Pour rester debout, il faut s'appuyer sur la provision de Dieu. La provision, c'est ce que Dieu donne, notre Dieu qui pourvoit. Regardez le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous avez entendu, c'est encore une fois tout. Tous vos besoins selon ma richesse. Non, ben là parce que ça va être vite dépourvu. Hein. Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Là aussi, on prend ce verset facilement, on dit « Ouais, c'est super, le Seigneur va pourvoir, tu vas voir, le Seigneur va te donner, attends-toi à lui !» J'ai entendu récemment une église où ils faisaient des réunions pour prier pour les entreprises, mais spéciale prospérité, et les gens devaient venir avec les documents de leur entreprise, les statuts, leur porte-monnaie, des histoires bizarres. Voilà, c'est une soirée pour la finance. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Rien du tout à voir avec ça. Parce que si l'on lit juste avant, encore une fois, verset 18, regardez ce que Paul va dire aux Philippiens. « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de dire « Le Seigneur va pourvoir à tous vos besoins », ben, ces personnes ont dû faire un effort pour soutenir Paul parce qu'il était dans la prison. Peut-être qu'il manquait de nourriture, il manquait de certaines choses. Et ils l'ont aidé. Et ils l'ont aidé. Avant de dire « Seigneur, viens bénir mes finances », il faut que nous, on soit prêts à dire « Seigneur, je veux aussi aider celui qui est dans le besoin. Je veux répondre quand il y a des difficultés. Je veux répondre quand il y a des problèmes. Et même de manière pratique et financière, je veux le faire. Comme on a pu le faire il y a quelque temps pour l'Ukraine. Mais c'est ça. Si nous voulons que le Seigneur pourvoie et qu'on reste les mains dans les poches et qu'on attend que le Seigneur fasse le travail, ben il va attendre aussi. Mais si on veut qu'il pourvoie selon sa richesse à lui, ben nous on doit essayer d'aider selon notre richesse à nous, d'abord. Et le Seigneur fera le reste. Et c'est une promesse. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous avez des besoins ce matin? Non? Il y a que moi qui ai des besoins. Ben c'est pas grave, je vais prier que pour moi. Je vais faire l'égoïste. Non, on a tous des besoins. On a tous de grands besoins. Mais on a un Dieu qui, dans sa richesse, est capable de pourvoir à tous nos besoins. À tous nos besoins. Si nous voulons rester debout, nous devons compter sur le Seigneur, nous appuyer sur le Seigneur. Et ce chapitre entier des Philippiens est là pour nous dire qu'il y a plein de moyens par lesquels Dieu va nous assister, par sa présence, sa puissance, etc. Je ne vais pas refaire toute la prédication, mais ce que nous sommes appelés à faire, le cri du cœur de l'apôtre Paul dans ce chapitre, c'est de dire « Appuyez-vous sur le Seigneur, si vous voulez rester debout ». N'essayez pas de vous appuyer sur vous-même, ça ne marchera pas. N'essayez pas de vous appuyer sur les moyens humains, ça ne fonctionne pas. Appuyez-vous sur le Seigneur. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Vous comprenez mieux le verset maintenant. Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Amen. Seigneur, oui, nous voulons invoquer ton nom ce matin. Parce que notre désir, c'est de rester debout. Quand nous voyons tant et tant de personnes qui flanchent, qui plient et qui tombent même, parce qu'ils s'appuient sur leur propre force. Seigneur, nous ne voulons pas imiter leur exemple. Mais nous avons besoin de toi ce matin. Oh Seigneur, ce chapitre entier nous montre que c'est toi dont nous avons besoin, ta présence simplement. Ton action dans nos vies à tous les instants. Tu nous connais chacun en particulier. Tu nous connais par nos prénoms, Seigneur éternel. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Voilà pourquoi nous sommes rassurés. Voilà pourquoi auprès de toi nous pouvons trouver le secours dont nous avons besoin. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse, Seigneur. Oh, et nous voulons ce matin encore plier le genou. Ce matin, Seigneur, nous voulons rechercher ta présence. Et nous voulons, Seigneur, décider, prendre ces décisions qui seront bonnes pour nos âmes, pour nos esprits, pour nos cœurs, de nous réjouir, d'être doux, Seigneur éternel, d'être généreux. Oh, aide-nous, Seigneur, dans tous ces aspects, d'être de ceux qui maîtrisent leurs pensées, que ton esprit vienne envahir nos âmes afin de faciliter tout cela. Seigneur, oui, nous ne voulons compter que sur toi. Nous ne voulons pas faire les choses comme nous le pensons. Et même si ce sont des petites choses, nous voulons te présenter tout. Tu as dit qu'à ceux qui étaient fidèles dans les petites choses, Seigneur, tu leur confierais de plus grandes. Ô Éternel, nous savons que c'est tes promesses. Tu vois celui qui est dans un besoin, celui qui est dans l'inquiétude, celui qui est dans l'angoisse, le stress, par rapport à des événements futurs, celui qui est blessé, celui qui est attristé par rapport au passé. Tu connais tout, Seigneur. Mais que ta joie, que ta paix surnaturelle vienne envahir les cœurs ce matin. Ô Seigneur, nous voulons être touchés par toi, être changés par toi, être transformés par ta présence, parce que ta présence ne laisse pas indifférent. Mais ton esprit est tout puissant. Oui, nous voulons pouvoir tout faire par Christ qui nous fortifie. Viens nous fortifier ce matin, Seigneur. Oh, tu nous connais, Seigneur. Tu sais ce dont nous avons besoin. Voici nos vies devant toi. Voici nos âmes. Vois nos besoins personnels. Vois nos besoins pour nos familles. Vois nos besoins pour nos enfants. Vois nos besoins pour ceux qui nous entourent. Vois nos besoins pour cette Église, Seigneur. Nous te présentons tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons faire. Et que ça soit ton esprit qui dirige tout pour ta gloire. Amen.